Vous écoutez
RMC.
Il est 7h, merci d'avoir choisi RMC pour vous réveiller.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Des centaines de tracteurs dans Paris ce matin. Nouvelle action des agriculteurs quand d'autres sont en passe d'être délogés. Les ultras de l'A64 près de Toulouse. L'avenir politique de Marine Le Pen en question ce matin à quelques heures de l'ouverture de son procès en appel des assistants parlementaires du FN. Et Paris battu par Paris. Le PSG quitte la Coupe de France, éliminé dès les 16e de finale par le Paris FC.
Les agriculteurs de retour à Paris.
Après les blocages et les barrages filtrants hier, plusieurs centaines de tracteurs, je vous le disais, ont gagné tôt ce matin les rues de la capitale. Action d'une branche de la FNSEA qui roule en direction de la place de la Concorde, non loin de l'Assemblée nationale, et au sein du cortège. Amélie Courtet, en direct pour RMC, vous êtes aux côtés de ces agriculteurs venus défendre une souveraineté alimentaire en danger et réclamer des actes concrets au gouvernement, Amélie.
Oui, là, impossible de voir le bout de cette file de tracteurs. Ils sont désormais plus d'une centaine d'agriculteurs encadrés et surveillés toujours par plusieurs camions de CRS. Les tracteurs font en ce moment lentement le tour de l'Arc de Triomphe et se dirigent vers la place de la Concorde en toute discrétion, à coups de klaxons, des pétards à l'instant, leur gyrophare orange clignote et on lit donc sur une pancarte « Ras-le-bol des contraintes ». J'étais dans un tracteur avec Thibaut, venu de l'Oise. Lui est allé jusqu'à Bruxelles, a participé à des opérations de péage gratuits et il veut encore se battre aujourd'hui pour obtenir des actes concrets de la part du gouvernement, marre des promesses. Si on ne monte pas à Paris, on n'aura jamais rien. On est asphyxié par ces normes. On n'en peut plus, me soufflait-il.
Amélie Courtet, en direct de Paris ce matin. Les ultras de loi 64, eux, à l'autre bout de la France, sont en passe d'être délogés. Plusieurs centaines de CRS sont arrivés sur place tôt ce matin afin de procéder à l'évacuation de ce barrage près de Toulouse, présent sur place depuis un mois. Jérôme Bail, leader du mouvement, fait part de sa colère sur RMC.
Une belle surprise, j'ai mes amis qui dormaient sous le pont de l'autoroute et il y a 300 CRS qui ont été les réveillés à 4h20 du matin, ils sont avec les centaures, ils cassent tout. Là, les centaures, ils ont écrasé une barrière de sécurité, ils sont tellement courageux qu'ils ont bloqué tous les accès, ils ont fermé l'autoroute à 25 km de carbone et tout pour pas qu'il y ait de déraillement, qu'il y ait des gens qui viennent sur le blocage. Et le préfet, qui a même pas eu le courage de nous appeler pour nous dire, essayer de négocier avec nous, donc c'est une honte.
Et d'autres actions sont en cours du côté de La Rochelle où un dépôt pétrolier est bloqué depuis hier matin. Les agriculteurs sont priés par le préfet de plier bagages ce matin ou plus tard. Des perturbations limitées ce mardi sur les rails en Île-de-France et en Occitanie, conséquence d'un appel à la grève lancé par deux syndicats de cheminots qui s'annoncent peu suivis. Marine Le Pen, de retour devant la justice, rejugée avec 11 autres co-prévenus pour détournement de fonds publics, procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du FN, condamnée en première instance à 4 ans de prison, dont 2 fermes et 5 ans d'inéligibilité provisoire. L'ancienne chef de parti, soutenue par Jordan Bardella, devra, en cas de nouvelle condamnation, tirer un trait sur une quatrième candidature à l'élection présidentielle. Mais pour l'heure, Romain Cluzel, Marine Le Pen se veut combative, convaincue d'une issue positive.
Et la triple candidate à la présidentielle ne veut pas baisser les bras. Marine Le Pen affirme vouloir dire la vérité et être mieux comprise par les juges.
Je suis comme toute personne qui fait appel, pleine d'espoir. C'est une nouvelle juridiction avec de nouveaux magistrats. L'affaire va être remise à zéro en quelque sorte. J'espère pouvoir convaincre les magistrats de mon innocence.
Convaincre, c'est justement ce que n'a pas réussi à faire Marine Le Pen en première instance. Si sa peine pour détournement de fonds publics à 5 ans d'inéligibilité est confirmée, elle devra tirer un trait sur la présidentielle en 2027. Mais le député Laurent Jacobelli veut se rassurer. Une autre figure du parti a émergé depuis, Jordan Bardella.
Oui, on a un duo avec Jordan Bardella et Marine Le Pen et nous aurons un candidat à l'élection présidentielle. Notre scénario, c'est Marine Le Pen candidate et Jordan Premier ministre. Mais nous sommes prêts à toute éventualité si jamais un obstacle venait à arriver sur notre route.
Et Marine Le Pen anticipe déjà le choix du ou de la candidate se fera dès le mois de juin, juste après l'annonce de la décision de la Cour d'appel.
La mort d'une ancienne figure du nationalisme corse, Alain Orsoni, exilé au Nicaragua. L'ancien dirigeant du club de foot d'Ajaccio de 71 ans était de retour sur l'île pour les obsèques de sa mère. C'est là qu'il a été abattu d'une balle en plein cœur hier après-midi. Le nouveau parquet national anticriminalité organisé est co-saisi de l'enquête.
7h05 sur RMC. Le Louvre fermé hier et la grève se poursuit.
Une nouvelle journée de débrayage des salariés. Ils dénoncent la détérioration de leurs conditions de travail plus de 3 mois après le casse du musée. Début des interrogatoires ce mardi pour les 4 cambrioleurs présentés à un juge d'instruction. L'enquête, elle se poursuit. Si le butin reste introuvable, les enquêteurs Constance Bostoen ont pu retrouver le lieu où les malfaiteurs se sont rendus à l'issue du cambriolage.
Oui, selon les informations de BFM TV, lors de l'interpellation d'un des cambrioleurs présumés du Louvre, les enquêteurs le fouillent et saisissent dans l'une de ses poches une mystérieuse clé. Cette clé les mène à un ancien local vélo à la Courneuve en banlieue parisienne où l'homme s'était connecté sur le réseau Wi-Fi peu après les faits. Les policiers de la brigade de répression du banditisme qui mènent l'enquête pénètre dans ce local. Il découvre un établi, une disqueuse, une perforeuse, un brouilleur et des outils de serrurier y sont entreposés. Plus intéressant encore, des pierres destinées au test de l'or sont également découvertes. Cette nouvelle avancée dans l'enquête permet d'étayer la thèse selon laquelle le commando du Louvre était préparé, alors que les joyaux de la couronne n'ont pour l'heure pas été retrouvés.
Plus de 600 morts. Dernier bilan largement revu à la hausse du nombre de victimes de la répression en Iran. Selon une ONG, des rassemblements favorables au régime ont été organisés hier à Téhéran à l'initiative du pouvoir en place, toujours menacé par Donald Trump, le président américain, qui annonce la hausse de 25% des droits de douane pour tout pays commerçant avec l'Iran.
Et puis, grosse surprise hier soir en Coupe de France.
Défaite et élimination. Surprise du Paris SG dès les 16e de finale de la compétition, battu 1-0 par le Paris FC dans le derby de la capitale. Chute à domicile pour le double tenant du titre. Le PSG quitte la compétition prématurément, Jérôme Sillon.
Depuis 20 ans, seul le Montpellier de Roland Courbis en 2014 avait réussi à éliminer le PSG en Coupe de France avant les huitièmes de finale. L'exploit du Paris FC est à la hauteur de la désillusion du Paris Saint-Germain. Malgré 25 tirs et 70% de possession, les joueurs de Luis Enrique ont manqué d'efficacité. Un avertissement pour l'entraîneur du PSG.
Si tu regardes les résultats, peut-être c'est que j'ai vu pendant tous les matchs, on a été très supérieurs. C'est comme ça le football, ce n'est pas juste.
Depuis l'arrivée de Luis Enrique à l'été 2023, jamais le Paris Saint-Germain n'avait été éliminé aussi tôt d'une compétition. Un événement qui doit appeler un réveil selon le milieu de terrain, Seni Mayulu.
Là on se prend une claque, c'est une défaite, mais là maintenant on passe à autre chose. On veut reprendre la première place dans ce championnat, du coup on va rebondir, on va se redonner à fond à l'entraînement. On va tout faire pour remporter tout le reste des compétitions.
À 3 jours de recevoir Lille et à 1 semaine du retour de la Ligue des Champions, le PSG a besoin de retrouver son meilleur niveau, à commencer par ses stars Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola, encore décevantes hier soir.
Et suite et fin de ces 16e de finale, ce soir 21h sur RMC, l'OM se déplace à Caen face au petit poussé de la compétition, Bayeux, club de 6e division. Les joueurs de l'OM porteront un brassard noir, hommage à Roland Courbis, décédé hier à 72 ans, ancien footballeur, entraîneur de l'OM de Bordeaux et bien sûr consultant pendant plus de 20 ans sur RMC, occasion pour Christophe Dugarry de se souvenir, l'ancien Girondin, s'est remémoré dans Rotten sans flamme, une causerie mythique du coach Courbis.
Roland, quand il parlait, il y avait la chemise toujours un peu plus ouverte, et avec les chaînes et tout, et tellement il devenait tout rouge, il s'énervait, il tape fort sur la table et tout ça. Et à un moment, il y a un calme, et là, t'entends un P. T'entends. Et là, tout le monde se retourne, et c'est Zizou qui fait un P. Et là, t'as Roland qui était rouge comme une écrevisse, et il le regarde, il lui dit, le principal, c'est que tu te chies pas dessus ce soir.
Roland Courbis dans toute sa splendeur qui avait trouvé d'ailleurs le surnom de Zizou pour Zinedine Zidane.
C'est Zizou, on le lui doit. Vous êtes bon. Très nombreux à réagir. Nicolas est avec nous au 3216 qui nous appelle de la Drôme. Bonjour Nicolas. Oui.
Bonjour.
Nicolas, chauffeur routier, accompagné dans la voiture, dans le camion, par la voix de Roland Courbis quoi.
Oui, tout à fait.
Ça, on a tous été. Là, vous êtes où, Nicolas?
Là, je suis pas loin de. Je suis dans l'Occitanie, je suis à Gaillac, là, j'attends pour livrer ce matin.
À Gaillac, et alors, franchement, si vous êtes sur les routes dans ce coin-là, est-ce que vous le savez, hein, il y a les agriculteurs qui continuaient depuis un mois à bloquer la 63, et au moment où on se parle, alors, on est tenus à distance, hein, nous les journalistes, les évacuations sont en cours, les CRS sont arrivés, semble-t-il, pour évacuer. Vous réagissez comment à ça, Nicolas ? 64, évidemment.
Alors, je suis très choqué. Très ému par ce qui se passe et très en colère parce que le barrage de Carbone, c'est un symbole de cette action. Ça fait plus d'un mois qu'ils y sont, ils y étaient déjà il y a deux ans. Et vraiment, je suis très en colère de ce qui se passe. Déjà que les journalistes n'aient pas le droit d'aller sous le pont pour voir ce qui se passe, d'être tenus à l'écart comme ça, on se dit mais dans quel monde on est. Et je me demande si c'est un bon calcul de la part du gouvernement d'agir comme ça, de passer en force sur les agriculteurs, parce qu'on a bien compris qu'aujourd'hui c'était Carbone. Et je crois aussi que le barrage à La Rochelle, ils ont jusqu'à la fin de matinée, d'après ce que vous avez dit tout à l'heure,
exactement,
le préfet a dit qu'il devait partir aujourd'hui. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui le gouvernement a décidé de taper un grand coup et de balayer tous les agriculteurs qui manifestent leur désarroi. Mais ce que comprend pas le gouvernement, excusez-moi, c'est que c'est le désarroi des Français qui exprime les agriculteurs.
Ça vous émeut?
Oui, ça m'émeut, ouais, parce que je sais pas si on se souvient, vous en avez pas parlé, mais il y a 50 ans, il y a eu une manifestation agricole qui a très mal tourné justement en Occitanie.
Ouais.
C'était le 4 mars 1976 à Montredon, où il y avait eu une fusillade entre les agriculteurs qui, par leur désarroi, avaient sorti leurs fusils et les forces de l'ordre. J'espère que ça va pas tourner comme ça. Il faut bien comprendre ce que vivent les agriculteurs et le monde paysan en France. C'est pas d'aujourd'hui. Ça fait des années que on tire la sonnette d'alarme. Moi, j'étais dans le monde agricole avant. Ça fait 3 ans que je suis chauffeur routier.
Vous avez quitté le monde agricole.
J'avais un centre équestre rural. Pas les centres équestres qu'on voit en région parisienne, etc. Donc un petit centre équestre. Pareil, on a manifesté beaucoup les centres équestres.
Je sais pas si vous vous souvenez. Je m'en souviens très bien.
J'étais passé pas mal de fois pour dire le salaire et qu'on se touchait quand on arrivait à se verser 600 euros par mois.
C'était le Graal, quoi.
Et du coup, j'ai dû fermer suite.
Vous vous dites, Nicolas, que cette fois-ci, vous redoutez d'abord que ça tourne mal, mais vous redoutez aussi qu'on les comprenne pas, qu'on les entende pas.
Qu'on les comprenne pas et qu'on comprenne pas les Français. Et qu'après, il faut pas s'étonner. Moi, je vais faire un lien. Alors, je sais pas si je peux. Hein. J'ai jamais voté extrême droite, et parce que pour moi, c'est pas du tout mes valeurs. Mais j'en suis à un point là où je me dis, on ne nous comprend plus de toute façon, et pourquoi pas aller voter RN aux prochaines élections, alors que ce n'est pas du tout mes valeurs.
Mais franchement, c'est intéressant ce que vous dites, Nicolas, parce que c'est vrai que le monde agricole, qui jusqu'à présent d'ailleurs était une sorte de dernier bastion qui ne votait pas RN, contrairement aux ouvriers par exemple, où c'est devenu le premier vote des ouvriers, le bastion paysan était plutôt traditionnellement de droite, mais d'une droite LR, disons. Et pour la première fois, effectivement, le vote RN est, semble-t-il, en train de devenir majoritaire chez les paysans. Merci Nicolas, en tout cas, d'avoir appelé au 32-16. On a entendu l'émotion dans votre voix. On sent que vous revivez aussi ce que vous avez vécu quand vous avez été obligé de fermer le centre équestre. Nicolas qui nous appelait donc de la route. Je vous redonne cette information de la nuit. Le rond-point sur l'A64 qui est en ce moment même en train d'être évacué par les forces de l'ordre. Il est 7h13.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Vol, menace, agression, dégradation, exclusivité RMC, les patrons des commerces et des petites entreprises n'en peuvent plus. Marc Sanchez est avec nous, bonjour. Vous représentez les indépendants, les petites entreprises, ces incivilités, elles sont en hausse et elles pèsent sur l'activité. C'est votre parti pris, vous nous le dites dans un instant.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h17 et vous êtes bien sur RMC et à la télé sur RMC Story. Voilà une exclusivité qu'on vous révèle ce matin. Plus de 2 patrons de petites entreprises sur 3 constatent une hausse des incivilités. Bonjour Marc Sanchez.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général du syndicat des indépendants et des petites entreprises. C'est vous qui avez mené cette étude auprès de vos adhérents. Et votre parti pris ce matin, c'est que ces incivilités, non seulement elles sont insupportables et elles polluent le quotidien des commerçants, des patrons de petites entreprises, mais en plus elles coûtent cher. D'abord, de quoi est-ce qu'on parle? Quand on dit incivilité, on parle de quoi?
Bah écoutez, c'est dégradation des biens, atteinte aux personnes, vol, vandalisme, c'est tout ce genre de choses en fait qui aujourd'hui ont un impact économique de plus en plus important pour beaucoup d'entreprises commerciales et artisanales. En tout cas, c'est un des éléments que nous constatons de manière assez importante et de plus en plus constante au fur et à mesure de tous les baromètres qu'on peut publier depuis déjà presque 2 ans.
Ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, ça fait des années et ça ne s'améliore pas, bien au contraire. La première incivilité dénoncée, c'est donc le vol. 35% des petits commerçants et des entreprises que vous avez interrogées disent que les vols ont augmenté. Ça nuit évidemment au chiffre d'affaires, ça nuit aussi à la fréquentation des magasins. Racontez-nous ce que vous disent et ce que vous racontent les commerçants.
En fait, c'est vrai que l'insécurité en tant que telle, c'est pas pour rien d'ailleurs que c'est la première préoccupation des Français dans le cadre des prochaines élections municipales. Je crois qu'il y a un sondage.
Je précise effectivement les choses comme vous le dites. Jusqu'à là, ces derniers mois, ces dernières années, le pouvoir d'achat était la première préoccupation. Et dans les tout derniers sondages depuis quelques semaines, c'est l'insécurité qui est devant la question du pouvoir d'achat.
Tout à fait, oui. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, aujourd'hui, ce sujet, c'est plus un sujet périphérique ou de simples faits divers. C'est vraiment devenu, dans nos entreprises, un paramètre économique à part entière pour beaucoup d'entreprises commerciales et artisanales. Alors, concrètement, effectivement, cette problématique, elle génère des coûts directs qui sont très concrets pour les entreprises, que ce soit par l'installation de caméras de vidéosurveillance, d'alarme, d'abonnement à des sociétés de protection aussi, des renforcements aussi des coûts des assurances suite aux différentes dégradations qui peuvent être constatées. Et on a évalué dans notre dernier baromètre sur ce sujet un budget qui correspond à peu près entre 1 000 et 6 000 euros par an pour chaque entreprise qui a répondu et qui effectivement, dans le cas des marges fragilisées aujourd'hui de beaucoup de TPE, pèse énormément sur l'activité.
Ce qui pèse effectivement, c'est d'abord de devoir s'équiper, comme vous le dites, mais c'est aussi le manque à gagner, j'imagine.
Ça c'est la deuxième conséquence, effectivement, les coûts indirects, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut constater des baisses de fréquentation, un recul de la consommation, des clients qui évitent aussi certains quartiers ou certains horaires, ce qui amène d'ailleurs certaines entreprises commerciales parfois à réduire leurs horaires d'ouverture. Elles ferment plus tôt, alors soit parfois pour effectivement protéger leurs propres salariés ou protéger même le dirigeant, voire même certaines qui décident de renoncer à ouvrir carrément. Et donc forcément, ça a un impact sur la fréquentation et sur le chiffre d'affaires de ces entreprises.
Merci beaucoup d'avoir alerté ce matin Marc Sanchez. Donc vous êtes secrétaire général du syndicat des indépendants et des petites entreprises. Je voudrais que vous qui nous écoutez, si vous êtes commerçant, appelez-nous pour nous dire si vous êtes vous-même confronté à ces incivilités, à ces vols, à ces agressions. On vous attend au 32-16. Il est 7h21 sur RMC. Et pendant ce temps-là, l'historien du matin, Arthur Chevalier, est entré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, encore une centaine de tracteurs en route pour la place de la Concorde et la place de l'Étoile. Au moment où l'on se parle, ils sont en train d'arriver sur la place de l'Étoile. Et Arthur, vous avez retrouvé un précédent coup d'éclat de ce syndicat agricole, la FNSEA, très puissant.
Oui, en 1961, les agriculteurs avaient déjà pris d'assaut la sous-préfecture de Morlaix, dans le Finistère. Un coup de force pour dénoncer la faiblesse du prix des produits agricoles déjà à l'époque.
Vous nous racontez cet épisode. Arnaud Demanche arrive aussi pour pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC, 7h21.
RMC, Apolline Matin.
7h22, RMC et RMC Story. Quand l'histoire éclaire notre actualité, avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, la FNSEA a donc appelé les agriculteurs à rouler sur Paris ce mardi pour protester contre le Mercosur notamment et sur la souveraineté alimentaire. Un appel à la mobilisation assez musclé, et ça détonne plutôt avec les dernières prises de position de la FNSEA. Hein.
Ben oui, puisque comparé à la coordination rurale, la FNSEA, c'est un peu la voie de la raison. Hein. Le dialogue, la modération, la négociation, tout ça d'habitude, c'est son créneau. Mais là, le ton monte, et quand on regarde de près, la FNSEA n'a pas toujours été aussi raisonnable.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'à une époque, ce syndicat n'était pas si conciliant?
C'est le moins qu'on puisse dire, Apolline. Dans les années 60-70, la FNSEA, ça plaisantait pas, et ce matin, je vous raconte un épisode très marquant. Nous sommes en 1961 et à l'époque, le problème, c'est la chute du cours des légumes. Donc évidemment, ça a entraîné une baisse des prix, de la surproduction et donc un appauvrissement des agriculteurs. Le gouvernement était impuissant, exactement comme aujourd'hui. Donc, les producteurs haussent le ton, la révolte gronde, les barrages se multiplient. Et le 8 juin 1961, au petit matin, 3 000 agriculteurs encerclent la ville de Morlaix, en Bretagne. et sans que personne ne s'y attende, ils donnent l'assaut sur la sous-préfecture.
Personne ne les arrête ?
Eh bien non, dans un premier temps, personne ne les arrête. Hein. Donc les agriculteurs enfoncent la porte, s'engouffrent dans le bâtiment, évidemment ça fait un boucan d'enfer. Donc là-dessus, le sous-préfet se réveille, il descend, et là, il tombe nez à nez avec les manifestants. Des manifestants qui ne manquent pas d'humour, puisque l'un d'eux s'excuse auprès du sous-préfet d'avoir forcé la porte en disant « Monsieur le préfet, tout ça ne serait pas arrivé si on avait eu la clé ». Ce qui n'a pas fait beaucoup rire le préfet, qui a paniqué, qui s'est enfui par une porte de derrière pour aller prévenir les gendarmes.
Qu'est-ce qu'ont fait les manifestants une fois qu'ils étaient à l'intérieur de la préfecture ?
Eh bien, figurez-vous qu'ils se sont installés et qu'ils ont pris un petit déjeuner. Et oui,
ils, bah oui, tôt, raison.
Ils ont pris le petit-déj dans la bonne humeur. Il a fallu attendre une heure pour que le gouvernement se décide à agir. On envoie 150 CRS depuis la ville de Saint-Brieuc. À côté, des guetteurs postés sur les routes préviennent leurs copains qui occupent la sous-préfecture. Du coup, les manifestants quittent les lieux. Ils se rassemblent sur une place de la ville où là, ils tiennent un meeting. Imaginez un peu l'effet sur les habitants.
Ils ont été arrêtés ?
Oui, les CRS embarquent la troupe. Certains seront jugés. Jugés, oui, mais relaxés. Les meneurs deviennent de véritables héros hein, en Bretagne. Une région où, pendant ce fameux mois de juin 1961, on a dénombré plus de 100 mouvements de contestation agricole. Quant aux leaders de la prise de la sous-préfecture, ils s'expliqueront en disant qu'il s'agissait d'alerter les pouvoirs publics avec une action coup de poing. Mission accomplie, puisque la France n'a parlé que de ça, ou presque, pendant un mois. Et déjà, le mouvement avait suscité un grand élan de sympathie.
Histoire surprenante et qui fait effectivement écho à l'actualité. Je précise à 7h25 qu'en ce moment même, les barrages de l'A64, les ultras, autour notamment de la figure de Jérôme Bail, sont en train d'être délogés après un mois où ils étaient installés sur l'autoroute. Les journalistes sont tenus à distance. Jean-Wilfried Forquès, notre envoyé spécial, il est sur place, il voit de loin... Il nous racontera tout dans le journal de 7h30. Mais tout de suite, Arnaud Demanche. Avec
Demanche pirate, le face-à-face.
Avec un petit piratage, de mon invité à 8h30. Je reçois le maire de Nice, Christian Estrosi.
Oui, Christian Estrosi, qui a un point commun avec les surveillants de Bétarame. Lui aussi veut battre un enfant.
Mais je ne suis pas un enfant, je suis Éric Ciotti, le futur maire de Nice. Chut.
Laisse parler les adultes. Car Apolline, les municipales approchent et Christian Estrosi, élu 4 fois, est challengé par Éric Ciotti à Nice. C'est son ancien directeur de cabinet qui veut le grand remplacer. Il veut tuer le père. C'est une tragédie grecque, ça, Apolline. C'est Brutus qui tue César. C'est Judas qui dénonce Jésus. C'est Daniela qui trahit Nabila dans la saison 2 des Anges de la télé-réalité. Vous vous souvenez tous, certainement. Totalement. Je ne ferai pas l'injure c'est de vous rappeler ce qui s'était passé. Bref, c'est une campagne à suivre sur notre chaîne spéciale RMC Sport de Combat. D'ailleurs, Christian Estrosi s'entraîne à claquer le beignet à Éric Ciotti. Lui aussi, il a acheté une poupée chine. Il lui a rasé la tête.
Non.
Et il lui met des petites tartes. Alors, on veut se présenter, hein, on veut battre papa. Bah alors, après si Éric Ciotti devient maire de Nice, j'ai gardé juste des claques sur la poupée chine, je suis pas allé plus loin. Après si Éric Ciotti devient maire de Nice, la ville va changer de visage, hein, évidemment, c'est sûr. Il a déjà prévu de renommer la promenade des Anglais en embarcadère des Algériens.
Ah oui.
Ça va aller très vite.
Voilà.
Alors on parlera évidemment du budget. On en a toujours pas.
Non.
C'est emmerdant pour nous. On sera pas de quoi sera fait le futur.
Ouais.
Après le futur à Nice, pour les Niçois, c'est tenir un an supplémentaire en fait. C'est pas très important. Non, parce que ils ont l'air en forme comme ça parce qu'ils sont bronzés, mais sous le mini slip en spandex qu'ils mettent à la plage. Oui, ça je vous conseille d'aller à la plage à Nice, voir un type de 90 ans orange en string brillant qui essaye de marcher sur des galets sans se péter une hanche. Vous verrez ça nulle part ailleurs. Hein. Sous le bikini.
Vous trouvez-vous
mais je suis allé à Nice et je suis allé à la plage et j'ai vu voilà que sous le bikini, il y a toujours un mélanome ou une hanche artificielle et il faut se méfier du coup, faut dépenser intelligemment. Comment ils vont gérer leur budget avec autant d'incertitudes les Niçois ? Comment ils vont financer leurs biens de première nécessité comme le Botox, la nourriture pour caniche agressif ou le Viagra dont ils ont tous besoin ? Autre sujet majeur ce matin, c'est le début du procès en appel de Marine Le Pen dans l'affaire du détournement de fonds du Parlement européen. Jordan Bardella ne fait pas partie des prévenus. Il a déclaré « Je n'ai jamais détourné de fonds du Parlement européen. Je suis même jamais allé au Parlement européen. Pourtant, je suis élu, c'est vous dire si je suis prudent. » Et c'est une bonne semaine pour Bardella, hein. Procès de Marine Le Pen, condamnation du vieux qui lui a acheté un œuf et pénurie au niveau des œufs, les planètes s'alignent. Ça se goupille bien pour le RN, les histoires doivent être contents.
Arnaud Demanche, on vous retrouve tout à l'heure à 8h20, il est 7h28 sur RMC. 7h31 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Abattu aux obsèques de sa mère d'une balle en plein cœur par un tueur posté dans le maquis. Le point sur les premiers éléments de l'enquête après la mort hier de la figure du nationalisme corse Alain Orsoni. 350 tracteurs ont rendez-vous dans Paris ce matin quand d'autres sont en passe d'être délogés sur l'A64 dans le sud-ouest. Et puis Marine Le Pen au premier jour du reste de sa vie, jugée en appel dans un procès crucial qui déterminera si oui ou non elle peut se présenter en 2027.
C'est un scénario digne des grands films de la mafia qui s'est déroulé hier en Corse.
Alain Orsoni, tué par balle dans son village natal du sud de l'île où il venait tout juste de rentrer depuis le Nicaragua pour les obsèques de sa mère, l'ancien président de la CAJACCIO, figure du nationalisme corse, est quasiment mort sur le coup sous les yeux de la soixantaine de personnes présentes lors des funérailles. Constance Bostoen.
Oui, on est en plein cœur de l'après-midi sur les marches du cimetière de Véro à flanc de colline. Alain Orsoni se recueille sur la tombe de sa mère juste après la cérémonie quand il est pris pour cible. Un tir l'atteint en plein cœur, selon Nicolas Sept, le procureur d'Ajaccio.
Il résulterait qu'il ait été touché par un tir à longue distance. Il est décédé des suites de ses blessures assez rapidement.
Selon nos informations, l'hypothèse est que le tireur était embusqué dans le maquis posté sur une colline en face du cimetière. C'est ce que l'enquête doit désormais confirmer.
Les constatations d'usage ont commencé avec les techniciens en investigation criminelle. Le recueil des indices et témoignages est en cours.
Le procureur d'Ajaccio a également annoncé être dessaisi de cette enquête qui est menée désormais par la juridiction spécialisée de Marseille et le tout récent parquet national anticriminalité organisée.
Il est 7h33 et les tracteurs sont de retour dans Paris ce matin à l'appel cette fois de la FNSEA, premier syndicat agricole. Ils sont environ 350 en route pour la place de la Concorde, une manifestation autorisée par la préfecture. Contrairement au barrage filtrant qui dure depuis maintenant un mois sur l'autoroute A64 en Haute-Garonne, barrage en passe d'être levé par les forces de l'ordre qui sont arrivées tôt ce matin à Carbonne. C'est là que l'on vous retrouve, Jean-Wilfried Forquès, en direct pour RMC. Jean-Wilfried, les agriculteurs sont désormais encerclé par un gros dispositif policier.
Oui, c'est ça, 200-300 gendarmes qui sont sur place depuis 4h20 ce matin avec des engins. Nous sommes bloqués à ce rond-point, à environ 300 mètres du point de barrage. C'est une opération qui se fait à huis clos, sans la présence des caméras et des photographes. On est avec le maire ici de Carbonne, Denis Turel, bonjour.
Bonjour.
Opération qui se fait à huis clos. Quelles sont les informations qui proviennent du barrage que vous avez ?
Pour l'instant, les informations que j'ai, c'est que le dispositif est en train de se tendre, vu que les ultras souhaiteraient que le préfet vienne discuter avec eux pour avoir une sortie négociée et apaisée.
Pour l'instant, ils n'ont pas été délogés.
Pour l'instant, ils n'ont pas été délogés. Pour l'instant, il y a la directrice du cabinet qui semble être sur place, mais qui semble ne pas entendre grand-chose dans le débat. Et on est à l'image de ce qui se passe, c'est-à-dire aucune information aux élus sur, et en tout cas au maire que je suis, sur ce déploiement. La presse n'y a pas accès. Moi, je n'y ai pas accès, vu que j'ai été refoulé tout à l'heure. Il y a une disproportion entre la responsabilité des agriculteurs et les moyens que la préfecture met en œuvre.
Voilà, début d'opération, donc 4h20 ce matin, mais pour l'instant, les agriculteurs sont toujours ici à 300 mètres dans ce barrage, et pour l'instant, l'intervention n'a pas eu lieu.
Jean-Wilfried Forquès en direct de l'A64 au niveau de Carbonne pour RMC. Il est 7h35 et Marine Le Pen joue gros à partir d'aujourd'hui avec le début de son procès en appel pour détournement de fonds publics européens. Procès qui va durer un bon mois et à l'issue duquel la patronne des députés RN saura si oui ou non elle peut se présenter à l'élection présidentielle de 2027. En première instance, elle avait été condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, une mesure qui inquiète beaucoup ses électeurs, rencontrés à Camaret-sur-Aigle dans le Vaucluse par Lionel Dion.
À l'intérieur des remparts de Camaret-sur-Aigle, le RN ne souffre aucun rival. Et si une décision de justice empêche Marine Le Pen de se présenter en 2027, Michel, jeune retraité, se fera une raison.
Monsieur Bardella, qui risque d'être à la suite de Madame Le Pen, voilà, bon, évidemment, il est jeune, c'est sûr, mais bon, j'espère qu'il a les épaules assez solides pour assumer cette fonction qui est très lourde.
Marc, militant RN depuis la première heure, lui affiche clairement sa confiance en Jordan Bardella.
Jordan Bardella, c'est le plan B du Rassemblement National. Et je trouve que
c'est un bon plan.
De toute façon, pour Véronique, employée dans un commerce, en cas de victoire du RN, Marine Le Pen sera forcément très proche du pouvoir.
Si elle est inéligible, donc ce sera Jordan, président, et Marine, Premier ministre.
Le maire de Camaret-sur-Aigle, Philippe de Beauregard, préfère lui, avec sa casquette de cadre, ne pas enterrer tout de suite une candidature de la patronne du parti.
C'est vraiment la candidate légitime pour nous, celle qui aurait mérité d'être notre candidate, mais j'espère, j'ai confiance en la justice pour qu'elle le soit.
Même si le cas échéant, il soutiendra Jordan Bardella.
Les réseaux sociaux nuisent gravement à la santé des adolescents et surtout des adolescentes. C'est ce que nous apprend ce matin une étude de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui publie ses conclusions après 5 années de recherche. Ce qu'on découvre, c'est que les filles utilisent davantage les réseaux sociaux et qu'elles en font aussi beaucoup plus les frais, Pierre Bourgès.
Les effets négatifs des réseaux sociaux, Lana, 15 ans, les a déjà ressentis.
Ça me traîne un peu dans mes devoirs, dans mes études, etc. Dans mon sommeil aussi, parce que on a le plus de mal à s'endormir.
Insultes, rumeurs, harcèlement sur les réseaux sociaux, les filles en sont plus victimes que les garçons, selon l'ANSES. Capucine en a fait l'expérience.
Quand je vois que y a une femme qui fait une certaine danse TikTok et qui se prend énormément de remarques, et que si c'est un homme qui va la faire, ça va être tout de suite hyper drôle.
Selon l'étude, il y a aussi une pression sociale plus importante pour les filles. Zia, en seconde, s'en rend régulièrement compte.
On se met plus une pression par rapport au modèle parfait de la femme. Je pense que ça met un poids sur mon estime, parce que quand on voit mieux que nous, ça nous fait toujours un peu mal au cœur, mais après, c'est normal.
La façon dont fonctionnent les réseaux sociaux encourage ce déséquilibre pour Fanny Dupuis, psychologue et psychanalyste.
Si on doit simplifier, ces outils-là permettent de traiter le corps comme un objet. Et c'est déjà la question à l'adolescence, quoi. Et donc c'est plus violent parce que les femmes sont plutôt restreintes à la question du corps en tant qu'objet.
Pour l'ANSES, il faut davantage sensibiliser les parents à l'usage du téléphone par leurs enfants.
7h38, dernier match des 16e de finale de Coupe de France. Ce soir, l'Olympique de Marseille affronte Bayeux, petit poussé de la compétition à 21h. Et hier, c'est le Paris FC qui a créé la surprise en battant 1-0 et éliminé son voisin, le Paris Saint-Germain. Première fois que le PSG sort avant les 8e depuis Montpellier en 2014, entraîné à l'époque par un certain Roland Courbis.
Et Roland Courbis, évidemment, on en parle avec vous tous au 32-16. Et dans un instant, juste après votre journal, Élise, les deux enfants de Roland Courbis, ils viennent de rentrer dans ce studio, seront avec nous.
Le Quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Vincennes avec le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 8, Express Dark. L'outsider, c'est le 12, Global Concept.
Il est 7h38 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Ce qui arrive à me démontrer que la victoire à 3 points, ça a été un plus dans notre football, eh bien, à ce moment-là, je présenterai mes excuses. Maintenant, je te dis un truc, dans quelques années que je serai plus là, si des fois ça se passe, ça me fera énormément plaisir depuis là-haut de se dire, tiens, je disais pas que des conneries.
Une voix, une légende, évidemment, un passionné de foot. RMC a perdu hier un ami, un consultant hors pair, 22 ans de fidélité à notre station pour Roland Courbis. Olivia et Stéphane Courbis sont avec moi. Bonjour à tous les deux. Un immense merci de venir partager avec nous. Vous êtes les enfants du coach Courbis, qui était vraiment votre père. Vous nous le dites dans un instant et vous venez parler aussi avec tous les auditeurs d'RMC. Je vous attends au standard, au 32-16 pour partager avec nous votre émotion. 7h39.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 sur RMC et RMC Story. Et c'est avec beaucoup d'émotion que j'accueille les enfants de Roland Courbis. Olivia et Stéphane, bonjour à tous les deux. Vous êtes ici chez vous. Il y a Roland Courbis, évidemment, admiré et qui a ému la France entière depuis hier. Les hommages de Platini, de Zidane, de Deschamps, de Dugarry. Le monde du foot qui rend hommage à Roland Courbis. Et puis il y a le père, vous êtes les enfants du coach Courbis. Il était ici chez lui, RMC, sa maison, pendant 22 ans. Vous êtes donc vous aussi ici chez vous. Je vois bien sûr votre émotion. Qui est le père Roland Courbis? Je voudrais d'abord vous donner la parole à tous les deux. Stéphane.
Tu veux commencer?
Non. Je vous donne la parole à vous, Stéphane, parce que je sens qu'elle est... il faut le temps aussi.
Le père, à l'image de ce qu'il était, c'était quelqu'un de très chaleureux, de très humain, qui était toujours à l'écoute et qui avait toujours, justement, comme on en parlait avec vous juste avant, qui avait toujours pour chaque situation une anecdote, pour que chaque problème une solution. Et c'était quelqu'un d'assez particulier, mais très authentique.
Très
très authentique, mmh. Olivia.
Et très atypique, comme dans sa vie en général. Même mon papa, il était atypique, il avait des solutions atypiques pour des problèmes lambda. Moi, je sais que je lui parlais beaucoup de mes histoires de vie, donc pas forcément du foot. Mais même dans le foot, en fait, moi, je donne des cours de sport, mais avec une logique qui me vient de lui, parce que mes logiques sont pas assez normales par rapport à mes... Mais en fait, toutes les logiques sont logiques, mais quand il les sort, tu te dis, putain, je suis trop con de pas y avoir pensé avant, quoi. Oui, effectivement, c'est logique.
Oui, et cette façon d'essayer toujours de trouver des solutions. Je précise d'ailleurs, Olivia, que vous avez un t-shirt aujourd'hui, oui, et je le dis pour ceux qui nous écoutent à la radio, qui est le t-shirt Coach Courbis RMC, et pour nous tous, ça nous parle. Vous le disiez, effectivement, on en parlait dans les couloirs dès que je vous ai accueilli. C'était une présence ici à RMC extraordinaire, que vous avez tous ressenti, d'ailleurs, vous tous qui nous envoyez des messages depuis hier, de nombreux messages, vraiment sur la manière dont Roland Courbis faisait partie de votre vie.
On a Pascal, par exemple, supporter du PSG. Je suis supporter du PSG et j'ai pleuré. Pas même si je suis supporter du PSG, Roland Courbis, qui était évidemment ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille. Emmanuel, une énorme pensée à Roland, il va nous manquer. Roland Courbis, c'était une voix, c'était une analyse, c'était un plaisir de l'écouter, notamment dans l'after. Voilà ce que nous écrit Alex. Et des messages comme ça, j'en reçois des dizaines depuis ce matin sur le WhatsApp RMC.
Donnez toujours confiance à chacun. Pierre, Arnaud, vous êtes là aussi au 32-16. Pierre, vous nous appelez de Montpellier. Vous êtes artisan paysagiste. Vous vouliez lui dire merci, on vous écoute.
Oui, bonjour à Pauline, bonjour à toute l'équipe. Bonjour à Stéphane et Olivia. Toutes mes condoléances à toute la famille.
Merci.
Et oui, je voulais dire un grand merci au coach, hein, coach Courbis, qui nous a mené après les matchs. Moi, comme je l'ai dit, c'était avec mon grand-père. Voilà. On rentrait du stade Vélodrome, on rentrait à Montpellier. Et on écoutait l'after avec coach, toute l'équipe. Et des fois, souvent, même, il nous consolait après les matchs de Ligue des Champions, je m'en rappelle. C'est des souvenirs, j'avais 9-10 ans. Voilà, ça m'a fait aimer l'OM, ça m'a fait aimer le football. Plein d'émotions, vraiment. C'est quelqu'un d'ici, c'est quelqu'un qui aimait Montpellier, qui aimait Loulou Nicolin avec leur sortie, je me rappelle de mon enfance. C'est des sorties vraiment incroyables.
On l'associe tous à un moment de notre vie.
Exactement. C'était en rentrant du stade. C'était RMC aussi. C'était vraiment pour moi, c'était les premiers moments à RMC, quand j'étais vraiment tout jeune. Aujourd'hui, je suis là avec vous. C'est beaucoup d'émotions. Et encore merci coach, merci RMC. Merci à tout le monde.
Merci. On est tous en train de lui dire merci. Et effectivement, il incarnait complètement RMC. Je vous entends tous les deux, Stéphane et Olivia, très ému aussi d'entendre ce que les auditeurs disent de votre père.
Non, surtout si, enfin, je pense qu'Olivia sera d'accord avec moi, mais ce qu'il en ressortait, c'est que le monde du football est un monde de compétition, est un monde très dur, mais lui avait toujours un mot positif. Dans une situation, même je l'entendais rarement dire du mal d'un joueur, il trouvait toujours un moyen de le défendre. Il avait ce côté positif et humain dont on parlait dans les couloirs, comme vous disiez, que peu de gens ont. Et dans chaque situation, plutôt que d'accabler quelqu'un, il allait valoriser quelqu'un d'autre, valoriser un joueur. C'était pas du tout le style comme certains, mais de critiquer bêtement, en disant bah tiens.
Toujours chercher la part d'humanité.
Toujours positif.
Toujours positif, humain, encourageant en fait. Moi, je l'ai ressenti effectivement quand je suis arrivée à RMC. C'est un des premiers à m'avoir donné le sentiment que j'étais chez moi et que j'aurais ma chance. Arnaud,
chez lui, mais vous veniez chez lui.
T'accueilles chez lui.
Exactement.
Vous arrivez chez lui, donc il vous accueille à la maison.
Et ça reste effectivement. Et c'est comme ça que je vous ai accueilli en vous disant que vous étiez ici chez vous parce que c'était sa maison. Arnaud est aussi avec nous, enseignant à Bordeaux. Bonjour Arnaud.
Bonjour Apolline, je vous présente mes condoléances à la famille et aux enfants.
Ils vous entendent.
Merci.
Voilà, écoutez, c'est tout à fait normal. Je tenais à rendre hommage à Roland. Moi c'est pareil, je l'ai écouté pendant des années. Et c'est exactement ce que son fils vient de dire, quoi. On sentait cette chaleur en lui humaine, cette bonhomie, toujours dans les conseils, la tactique, la technique, mais jamais en train d'offenser quelqu'un. Et moi, c'est ce que j'appréciais particulièrement chez lui. C'est cette humanité. Et puis en plus, je suis supporter des Girondins de Bordeaux. Il a été entraîneur, un grand entraîneur des Girondins de Bordeaux aussi. Et voilà, c'est Roland. Moi, je l'écoute aussi depuis l'after, depuis toutes ses émissions radio. Et c'était aussi un formidable joueur parce que c'était un coach, mais c'était aussi un très bon joueur. Vraiment, ça me tenait à cœur de lui rendre hommage quand j'ai appris cette nouvelle. Je ne fais pas partie de sa famille, mais c'est vrai qu'à force d'entendre cette voix comme ça chantante, qui sait de quoi il parle et toujours dans la bonhomie, les conseils. C'est vraiment ce que je retiens de Roland et puis un super tacticien.
Merci beaucoup Arnaud. Et vous êtes effectivement trop nombreux au 32-16 pour qu'on vous donne à tous la parole, mais vous savez effectivement qu'on vous entend. Il parlait de cet hommage, Arnaud, à l'instant. Rendre hommage, tout le monde a besoin de rendre hommage. Il y aura un hommage officiel organisé à Marseille. Vous pouvez nous en dire un peu plus?
En fait, ce qu'on réfléchit en famille depuis hier, c'est comment lui rendre hommage de la meilleure des façons. Donc on va faire en deux parties. On va faire une partie à Paris, demain après-midi, à l'église Sainte-Madeleine, à 15h. Et samedi aussi à Marseille, qui... Marseille et reste sa ville, lui l'enfant des quartiers nord de Marseille. Donc samedi aussi, sûrement à l'église des Réformés.
D'accord.
Samedi après-midi, on va lui rendre hommage, on va faire une messe aussi entre nous, entre amis et tous ensemble.
Tous ensemble, donc demain, 15h, la Madeleine à Paris, samedi à l'église des Réformés.
On nous renverra les infos pour samedi.
Vous nous direz, évidemment, on vous tiendra tous au courant sur RMC. Est-ce qu'il y aura aussi un hommage au Vélodrome? Est-ce qu'on sait s'il y aura un moment pour le monde du football?
On y réfléchit encore, mais vu les gens qui nous ont appelés demain, je pense que ce soit à Paris, que ce soit à Marseille, je veux dire, tous les gens supporters du football seront là, donc... tout ce qui est Vélodrome, tout ça, on y réfléchit, mais après ça fait beaucoup de choses en peu de temps, donc on a déjà organisé les deux messes, et après on verra si on fait autre chose aussi ou pas.
Je vous sens tous les deux très généreux de lui. Je sais pas comment le dire autrement. Il était un homme extrêmement généreux de sa personne. C'est-à-dire que quand on le croisait, il donnait beaucoup. Il donnait à chacun, il donnait une attention, un mot. Et je vous sens tous les deux très généreux dans le partage. C'est un homme dont vous savez qu'il était aimé par les autres et vous en êtes heureux.
Ouais, mais surtout en fait, on le savait, mais depuis hier, on se prend une vague d'amour. Comme les gens peuvent pas lui dire à lui, on reçoit tout. Pardon, je suis désolée, mais.
Et c'est pour ça que nous, qu'on essaie de faire depuis hier, en fait, c'est de lui rendre hommage de la meilleure des façons.
Et ce sera fait, et c'est fait sur cette antenne, parce que c'est sa maison. Merci à tous les deux d'être venus partager votre émotion et partager un peu de ce que le coach était aussi comme père, Roland Courbis. Merci à tous les deux, Stéphane et Olivia, vous êtes les enfants de Roland Courbis. Messe donc demain, notez-le, la première étape ce sera à 15h à Paris, à l'église de la Madeleine, il est 7h51. Et pendant ce temps-là, la voix de gauche d'RMC est entrée dans ce studio, Cécile Duflo. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Cécile, écoutez ce que disait la ministre de l'Agriculture hier dans le face-à-face.
C'est trop compliqué aujourd'hui d'installer des bâtiments d'élevage, des poulaillers. Il y a 4 projets là de poulaillers qui sont retoqués parce que les Français ne veulent plus voir de bâtiments d'élevage.
Vous vouliez réagir au propos de la ministre de l'Agriculture hier, Cécile, pourquoi?
Parce que je pense que cette histoire d'œufs rend tout le monde un peu fou, mais la ministre particulièrement.
L'histoire des œufs, revue donc par Cécile Duflo dans un instant, 7h52.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53, dans un instant, la voix de gauche, Cécile Duflo. Mais d'abord, le bonus.
Le bonus RMC, je vous parle ce matin de la bande dessinée la plus chère de l'histoire. Et oui, une BD de Superman qui vient tout juste d'être vendue aux enchères pour 13 millions d'euros. Alors évidemment, à ce prix, vous avez une bande dessinée qui a une histoire. Déjà, elle date de 1938. Cette BD, c'est l'un des 100 exemplaires du magazine Action Comics No. 1. En fait, c'est dans cette BD qu'on voit pour la première fois l'homme de Krypton. Donc c'est une pièce de collection. Vous ajoutez à cela le fait qu'elle a appartenu, cette BD, à Nicolas Cage, l'acteur qui l'avait lui-même acheté 150 000 dollars à l'époque. Elle lui avait été volée ensuite en 2000, réapparue 11 ans plus tard. Elle avait été retrouvée dans un box. L'acteur l'avait finalement revendue, c'était en 2012, pour plus de 2 millions de dollars. 16 ans plus tard, cette même BD a donc été achetée quasiment 7 fois plus cher, quasiment 13 millions d'euros par un acheteur qui a préféré rester anonyme.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
7h54 et c'est l'heure de la gauche sur RMC, voix de gauche comme tous les mardis. Cécile Duflo, bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
Hier dans le face-à-face, la ministre de l'Agriculture réagissait à mes questions sur les pénuries d'œufs qui frappent la France, les œufs qui sont plus rares dans les rayons, voire carrément absents de certains magasins. Alors pour Annie Genevard, et c'était sa réponse, c'est à cause de la législation française qui serait trop contraignante et à cause des riverains qui souvent refusent de voir des poulaillers s'installer à côté de chez eux. Et vous n'êtes pas d'accord Cécile?
Non, je suis pas d'accord parce que d'abord il faut dire les chiffres. La France, c'est le plus gros producteur d'œufs en Europe. On est à 15,4 milliards en 2025 et 5% de plus en 10 ans. Donc les normes qui existaient déjà n'ont pas empêché l'augmentation de la production, mais j'y reviendrai. Ce qui est sûr, c'est que c'est un aliment très important puisqu'il y a plus de Français qui mangent des œufs, 97%, que de Français qui mangent du pain. Donc c'est un aliment et effectivement très important pour les Français. Et effectivement, il y a un certain nombre d'endroits où ça a été difficile d'en trouver dans les rayons. Pour, en gros, quatre raisons. Un, la neige et la tempête et l'approvisionnement. Ensuite, le fait qu'il y a eu quand même des difficultés liées à l'épidémie de grippe aviaire. Ensuite, il y a effectivement la hausse de la consommation, mais aussi un vrai truc, et je veux le dire aux gens qui nous regardent, en fait, quand on pense qu'il y a une pénurie, si on en trouve dans le magasin, au lieu d'acheter une boîte de 12, on en achète 3, et qu'est-ce que ça fait? Ben, il n'y a plus 2 dans le magasin. Donc, il y a ça aussi qui s'est passé.
Donc pour vous, c'est une histoire juste de conjoncture?
Alors, il y a beaucoup une histoire de conjoncture, mais il y a quand même une réalité, c'est qu'on mange 25% de plus d'œufs en France que dans le monde. On est des gros mangeurs d'œufs. Il y a presque même un Français sur 10 qui mange des œufs tous les jours, parce que c'est une protéine pas chère et parce que c'est facile à cuisiner. Et puis parce que il y a aussi en ce moment une mode. Et c'est ça qui a contribué à l'augmentation de la consommation.
Dans quelle proportion ça a augmenté cette consommation?
Ça a augmenté de 5%. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a deux choses intéressantes. D'abord, c'est qu'on était quand même quasiment autosuffisant en œufs, c'est-à-dire qu'on produisait 99% de ce qu'on consommait. Donc il n'y a pas un problème de tension. Mais en revanche, ce qui est le plus intéressant, c'est que ce qui a fait progresser la consommation d'œufs, c'est les œufs bio, alors qu'ils coûtent plus cher et que leur prix a augmenté, c'est les œufs élevés en plein air et les labels rouges. Plus de 80% des œufs qui sont achetés par les Français aujourd'hui, c'est des œufs de poules qui ne sont pas dans des cages. Bon,
alors,
et ça, c'est très important.
Pour vous, il n'y a pas de problème de normes. Pour construire, c'est justement ces nouveaux poulaillers qui seraient plus adaptés et qui seraient moins des poules de cage.
Alors, je l'ai dit. Premièrement, on a continué de voir une augmentation de la production malgré l'existence de ces normes. Ensuite, de quelles normes on parle? On parle d'une situation un peu spécifique. On parle du fait de relever les autorisations nécessaires pour les exploitations de 40 000 à 85 000 poules. Donc, ce n'est pas des petits poulaillers, c'est des très gros poulaillers. Et c'est une demande qui concerne, et c'est bien un problème, 3% des exploitations. C'est vraiment pas du tout l'élevage en majorité. C'est là que la ministre, quand même, abuse. C'est qu'en fait, elle dit, ah bah voilà, vous avez plus d'œufs dans les rayons, c'est à cause de la loi du plomb. Et franchement, essayer de repeindre la loi du plomb et de blanchir la loi du plomb en parlant des œufs, c'est pas très honnête. Donc, je sais que la politique a changé, mais quand même. Et puis, je voudrais redire une chose. Et on l'a vu avec le drame de Crans-Montana. L'histoire des normes, c'est pas juste pour embêter les gens. Les normes, ça a deux raisons massives, la sécurité et la santé. C'est comme ça qu'on a commencé à mettre en place des normes. Et là où les agriculteurs ont raison, c'est que les normes qui s'appliquent chez nous, elles doivent s'appliquer aussi à ce qu'on achète et qui vient d'ailleurs. Parce que sinon, il n'y a aucune logique. Et donc, si on est dans cette situation, c'est positif. On préserve notre environnement, on préserve la qualité de l'alimentation des Français, on préserve nos agriculteurs. Et c'est ça que devrait défendre la ministre.
Cécile Duflot, la voix de gauche sur RMC. Il est 7h58, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et à la une du journal de 8h, l'ouverture aujourd'hui du procès en appel de Marine Le Pen. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.